Alors avant d'aller à David, on va faire une petite révision parce que faut se replonger un petit peu dans l'époque et puis dans l'histoire des personnages de Samuel, Saül et David. Mais avant, je pense que je vais prier parce que j'ai constaté qu'il y en a parmi nous qui passent par vraiment des choses difficiles. Et je pense que c'est pas seulement ceux à qui j'ai parlé, mais il doit y en avoir d'autres. Donc je pense que avant on va prier. Je pense que si Dieu a aussi insisté visiblement sur le fait de l'écouter, c'est tombé comme ça. Je pense que c'est parce qu'il a des choses aussi à dire à certains d'entre nous. Et on va passer un petit temps dans la prière. Et particulièrement pour vous, que je ne suis peut-être pas au courant, mais vous passez par des moments difficiles et vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu, et ben, c'est le moment. On va prier pour ça avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, tu vois les frères et sœurs qui aujourd'hui sont dans une situation difficile pour toutes sortes de raisons. Pour certains, je le sais, pour d'autres, je ne sais pas, mais toi, tu les connais. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ta voix. Et que ce soit vraiment clair dans leur cœur où tu veux les amener et ce que tu attends d'eux. Seigneur, veuille bénir et encourager. Seigneur, que ce message de ce matin ne soit pas seulement une somme de connaissances, de révision de ce qu'on a vu l'année dernière, mais qu'au travers de ta parole, le message, comme dans l'histoire de ce matin, les petits bip-bip de ta parole, puisse passer dans les cœurs, alléger les fardeaux, encourager, fortifier. Je te prie pour tous ceux qui sont fatigués, qui en ont un peu marre, qui baissent les bras dans des situations difficiles, fortifie-les ce matin. Et que ta parole soit comme un élixir, comme quelque chose qui vient leur redonner du tonus pour la semaine qui vient. Amen. Amen. Alors, je pensais que pour le premier jour, on va faire un peu une révision de ce qu'on a fait depuis ces deux dernières années pour bien resituer le personnage de David. On imagine difficilement le personnage de David sans tout ce qui s'est passé avant. Donc on va faire une petite révision. Vous savez qu'on avait commencé par le personnage de Samuel. Donc pour le situer historiquement, 1100 avant Jésus-Christ. C'est quand même pas mal pour nous, ça fait 3100 ans. Ça fait quand même loin. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que les gens ont beau être très loin historiquement, ils sont tellement, tellement proches de nous en tant qu'humains. Il n'y a pas eu d'évolution, on est toujours les mêmes. Donc vous vous rappelez qu'au temps de Samuel, l'installation des Israélites en Canaan n'était pas totalement accomplie. Et entre autres ennemis, les Philistins passaient leur temps à guerroyer pour occuper la côte et repousser les Israélites vers les montagnes, à l'intérieur. Parce qu'ils voulaient la côte évidemment pour le commerce. Aujourd'hui, les Palestiniens ont fait des affiches. Aujourd'hui, non, il y a quelques années, ils ont fait des affiches en disant « on va les jeter à la mer ». C'est le processus inverse, ils veulent les rejeter. Mais bon, il y a toujours ce problème de la côte. Vous voyez, 3100 ans après, on en est toujours au même point. Anne, la mère de Samuel, était stérile. Et après une prière fervente dans le temple, vous vous souvenez, Dieu va l'exaucer. Et elle décide alors de consacrer son fils au service de Dieu. Et là, on avait passé du temps à parler de nos prières ferventes, les choses qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, depuis des années. Anne avait souffert et elle avait engrangé sa souffrance, mais là, ce jour-là, elle a tout laissé exploser. Elle a vraiment tout déversé devant le Seigneur et le Seigneur a exaucé. Donc, on avait dit, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut vraiment aller trouver le Seigneur. Et en tant qu'Église, on a certains sujets de prière que peut-être il faudra aussi qu'on aille déverser nos sujets de prière devant le Seigneur. Je n'ai prié. Je crois que certains savent de quoi je parle. On en reparlera. Je pense qu'on va entamer des jeûnes et prières le dimanche midi, aussitôt après le culte, pour cibler certains sujets qui nous tiennent à cœur au niveau de l'Église. Très jeune, Samuel va servir dans le temple. Il apprend à écouter Dieu. On est vraiment dans ce thème. J'en ai pas fait exprès. Écouter Dieu. Il apprend à écouter Dieu. Et ce n'est pas simple. Vous vous souvenez, ses premières réactions, il croyait que c'était le prophète, il se lève une fois, deux fois, trois fois. En plus, il a été patient. Et il a appris à entendre la voix de Dieu dire, Seigneur, ton serviteur écoute. Eh, c'est pas évident hein, d'entendre le petit bip-bip du message de Dieu. Samuel trouve grâce aux yeux de tous et il est bientôt reconnu avec les années hein, comme prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Au cours d'une guerre avec les Philistins, les fils d'Élie, donc le prophète qui s'occupait du temple à l'époque, les fils d'Élie sont tués. L'arche est prise par l'ennemi, Élie va mourir lui aussi, et c'est Samuel qui va lui succéder. Là, on fait 30 ou 40 ans d'histoire. Hein. Il y a un épisode, vous vous souvenez, assez amusant, où partout où l'arche passe, chez les Philistins, il n'y a que des problèmes. Et ils en ont tellement marre de cette arche qu'ils vont la renvoyer et la redonner. Gardez votre arche parce qu'elle nous crée trop de problèmes. Là aussi, je passe sur plusieurs années d'un coup. Une vingtaine d'années passent encore, et puis... Ben, petit à petit, avec les Philistins, on fait des compromis. Et tellement de compromis qu'on finit par être soumis aux Philistins. On finit par adorer les mêmes idoles, et puis aller au même repas, faire les mêmes bêtises. Et tout doucement, les Philistins prennent le dessus, et ils ont trouvé une très bonne astuce. Ils ont le monopole du fer. Et une arme de bronze contre une arme de fer, ça, il n'y a pas photo. Et les armes de fer étaient bien plus efficaces, bien plus faciles à aiguiser. Et du coup, le peuple se trouve en infériorité militaire, nettement, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le fer. Ils doivent aller faire aiguiser leurs armes chez les Philistins, faire changer pour les charrues, etc., les socs de charrues. Donc, ils sont vraiment mal en point. Ceci étant, le peuple revient vers Dieu. Voyant qu'il n'a plus le dessus, il est complètement écrasé par ses ennemis, il revient vers Dieu et vous vous souvenez, il se repent, il abandonne ses idoles, il confesse ses péchés. Et ça, c'est la bonne méthode. C'est la seule méthode. On avait dit ça, c'est la seule méthode. Avant, ils avaient trouvé une méthode. Ah oui, on prend l'arche, on la met au milieu de nous et on chante. Ils se sont fait écraser comme des limaces et l'arche a été prise. Quand l'arche revient, je crois qu'ils ont compris quelque chose. Ils reviennent vers Dieu, ils se repentent, ils abandonnent leurs idoles, ils confessent leurs péchés. Et les Philistins attaquent. Oh, bah pourtant on est revenu vers Dieu. Et pendant le sacrifice en plus, ça fait. Mais la relation avec Dieu est rétablie. Et c'est Dieu qui va combattre. Orage, tonnerre, un esprit de panique, c'est Dieu qui combat pour eux. Ils ont une victoire éclatante. C'est curieux, hein. Quand on s'attache aux objets, l'arche, le rite, c'est pas ça qui va donner la victoire. La méthode, c'est toujours la même dans notre vie aujourd'hui. On veut que les choses changent, on veut des victoires, on veut sortir de nos cul-de-sac. Eh bien, la méthode est toujours la même. Revenir vers Dieu, se repentir, abandonner ses idoles, confesser ses péchés. Et là, c'est Dieu qui prend le combat. C'est Dieu qui combat pour nous. Et quand il combat, oula! C'est sérieux. Hein. C'est intéressant parce que la guerre a eu lieu dans le même lieu, vous vous souvenez? Israël a été vaincu par les Philistins. Il avait essayé de manipuler Dieu en mettant l'arche. Les Philistins avaient entendu des cris. Et du coup, allez, ils s'étaient bien fortifiés, ils étaient partis à la bataille. Et puis le résultat, c'était Ichabod, la gloire est partie. Les Israélites ont été vaincus. Dans l'autre cas, c'est les Philistins qui ont été vaincus par Israël, parce qu'il y a eu repentance sincère. Les Philistins aussi ont entendu le rassemblement. Ils se sont dit, houhou, on va les avoir comme l'autre fois. Mais là, c'était Ébénézer, la pierre du secours. Dieu a agi. C'est incompréhensible. Même circonstance, même lieu, mêmes ennemis, mais deux façons différentes d'aborder le problème. Et dans nos vies aussi, je crois, suivant la façon dont on aborde nos problèmes, on va avoir des résultats différents. Alors malheureusement, les fils de Samuel ne suivent pas ses traces. Ah, la transmission. C'est pas évident, hein. Transmettre aux enfants la même foi, le même dynamisme, la même écoute de Dieu, c'est pas simple. Et ça se fera pas automatiquement. Ça se fera pas automatiquement. Parce qu'il y a une interaction. Et il faut pas compter sur les choses pour que ça se fasse tout seul, comme ça. Les fils de Samuel ne suivent pas ses traces. En plus, il a fait une bêtise, Samuel, vous voyez, qui n'était pas parfait. Les personnages de la Bible ne sont pas parfaits. C'est pour ça que j'aime la Bible. Elle est honnête. Elle n'essaie pas de vous faire croire que Samuel était parfait. Ou que David, vous allez voir, oh David, oh là là là. Mais oui, mais c'est la Bible, elle est vraie, elle est vérité, elle nous voit telle qu'on est. La parole de Dieu nous décrit telle qu'on est. Il y a des choses qui font la différence, par contre. Hein. Mais bon, là, il a eu tort, il a établi ses fils juges. Juge, vous vous souvenez, hein, c'est le leader du peuple. Mais malheureusement, ses fils recherchent le profit, contrairement à Samuel, qui avait été établi par Dieu, il avait été reconnu par Élie, reconnu par le peuple. Là, malheureusement, ils ont été établis uniquement par Samuel. C'était une gaffe. Du coup, ça va être un argument de poids pour demander, je dirais même exiger un roi. Samuel, t'es vieux, tes fils te suivent pas, t'as vu un peu les dégâts. Bon, le système de juge et de prophète, t'as vu, Samuel, ça marche pas. Alors, écoute, nous, on veut pas être tout le temps différents des autres. T'as vu les peuples au nord, à l'est, au sud, ils ont un roi. Alors ils vont pas chercher Dieu, c'est ça qui est très curieux à ce moment-là, ni le conseil de Dieu. Et Samuel est un peu perturbé. Et du coup, quand il est humain quand même, il se dit, il me rejette là. Et Dieu lui dit, non, c'est pas toi qui le rejette. C'est pas toi, c'est moi. Parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. C'est pas facile une vie où c'est Dieu qui nous dirige. C'est pas facile, justement, à cause de ces problèmes d'écoute aussi. Hein. Apprendre à écouter Dieu, c'est tout un programme. C'est pas facile. Donc le peuple, moi je le comprends. Hein. C'est tellement plus simple d'avoir un roi. Il y a un lieu dédié, il y a une armée, il y a des costumes, il y a un apparat. Et puis voilà, c'est lui qui règle, c'est lui qui marche devant l'armée. C'est magnifique. C'est tellement plus simple que de là faire les sacrifices, demander pardon à Dieu. Dire, Seigneur, est-ce qu'on va combattre? Ah, le prophète dit non, c'est pas le moment. Bon, alors... qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut que voilà, les gens de la louange marchent en premier. C'était le cas de David, on va le voir plus tard. Bon, d'accord, alors on le fait. Oh, c'est lourd tout ça. Hein, c'est tellement plus simple de dire, allez le roi, là, tu marches devant nous, on te suit, et en avant. Et bien sûr, la volonté d'être pareil aux autres. Un roi comme en ont toutes les autres nations. On n'y échappe pas. Hein. Être différent des autres dans la société, c'est difficile. D'ailleurs, même des domaines où on n'a même plus le droit à la différence. Même dans nos pensées, on n'a plus le droit de refuser certaines choses parce qu'elles sont devenues des lois. On n'a plus le droit de penser différemment. Ça devient un peu chaud d'ailleurs, hein, la volonté d'être pareil. Et Dieu, craque, donne-leur un roi comme ceux des autres nations. Ils répètent vraiment ce qu'ils ont dit. Vous voulez ça? Eh bien, vous l'aurez. Alors, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, on avait dit attention. Les moments dans notre vie où on veut absolument quelque chose, il arrive que Dieu craque. Mais il y a une différence entre Dieu craque et Dieu exauce. Quand il exauce, c'est quelque chose qui est dans sa volonté, il va faire fructifier les choses. Mais quand il cède, parce qu'il voit qu'on est têtu comme des mules, et qu'on veut absolument, et parce que voilà, notre vie en dépend, et on veut, j'ai vu parfois Dieu exaucer des gens, et voilà, ils ont tellement insisté. Et ça a été un peu le cas là. Dieu avait prévu un roi pour Israël, c'est vrai, mais pas à ce moment-là, un tout petit peu après. Mais bon, ils ont tellement été insistants, ils lui disent, écoute, donne-leur un roi, comme ceux des autres nations. Ce qui fait que le roi Saül, donc le prédécesseur de David, va être un roi selon les autres nations, selon les critères du peuple. Dieu, lui, avait prévu un roi selon ses critères, et c'est ce qu'on va voir avec David. Est-ce que ça veut dire un roi parfait? Eh bien, encore une fois, non. Mais un roi selon les critères de Dieu. La Bible dit selon le cœur de Dieu. Alors, Dieu va choisir Saül sur les critères du peuple. Vous voulez un roi comme les autres nations, vous allez en avoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il présente bien, qu'il soit grand, qu'il soit fort, qu'il soit un excellent guerrier, un très bon chef d'armée, un stratège, qu'il vienne d'une famille aisée, etc., etc. D'ailleurs, il les dépassait tous d'une tête. Hein. C'était vraiment, il en imposait. Il faut qu'il en impose. C'est un roi quand même. Alors, on va voir avec David, on va voir tout le contraire. C'est le piti qui gardait les moutons. On n'est pas dans une dynamique très royale, là. Bon. Mais sur les critères du peuple, c'était ça. Et Dieu a dit, vous en voulez? Vous les voulez selon vos critères? Vous le voulez selon vos critères, le roi? Vous allez en avoir un. Ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il n'est pas méchant. Ça semble idiot de le dire comme ça. Mais moi, j'aurais peut-être dit, vous allez en goûter de votre roi, vous allez voir. Non, il va souffler sur lui, il va tout faire pour que ce roi réussisse. Et ça, c'est là qu'on voit la bienveillance et la miséricorde de Dieu. Moi, j'étais sidérée en travaillant ce texte, de voir comment Dieu a tout fait pour que ça marche. Moi, franchement, j'aurais dit, bon, écoutez, hein, vous l'avez voulu, vous avez râlé, vous m'avez envoyé promener, bon, ras-le-bol. Eh ben non. Il va tout faire pour que ça marche. Il prévient d'abord. Il dit, vous savez, vous deviendrez ses esclaves, etc. Vous vous souvenez de ce texte, il dit, vous serez obligés, vos filles deviendront les servantes, les boulangères, etc. Vos fils seront appelés pour la cour, à la cour, pour l'armée, etc. Rien ne change. Alors, une fois qu'il les a prévenus, il va s'arranger quand même pour trouver un homme qui corresponde à leurs critères. Il trouve Saül. Et alors, en plus, il organise un truc fou pour que la rencontre se fasse entre Samuel et Saül, cette histoire des ânesses qui sont perdues, là, etc. Et puis, il va organiser toutes les circonstances pour que Saül se tourne vraiment vers Dieu, soit rempli du Saint-Esprit. Il va même jusqu'à prophétiser. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Enfin, il fait tout pour que ça marche. Il ne le laisse pas comme ça. Il aurait pu dire à Samuel, écoute, c'est le grand là-bas, là, tu vas le chercher, tu lui fais l'onction, un petit peu comme il a fait avec David, d'ailleurs. Tu vas le chercher, tu lui donnes l'onction, et puis... vogue la galère, hein, c'est bon, il va être roi. Non, non, il fait tout pour que ça marche. Il le remplit de son esprit, il va prophétiser. Et puis, il lui donne tout ce dont il a besoin. Et Saül, au début, va bien marcher avec le Seigneur. Vous vous souvenez, il obéit. Tout ce que le prophète lui dit, il le fait. Clac, clac, clac. La preuve qu'il sait faire, hein. Vous verrez qu'après, c'est plus le cas. Mais il sait obéir. Ensuite, il est très humble quand il s'agit d'avoir l'onction, etc. Il s'était caché, il ne voulait pas se mettre en avant. Il ne va pas réagir à ceux qui le méprisent. Et ça, c'est une énorme qualité. Quand ceux qui ne l'avaient absolument pas considéré, qui le méprisaient, avant la bataille, évidemment, la bataille est gagnée, alors tout le monde revient vers lui, évidemment, y compris ceux qui l'avaient méprisé avant. Et il y en a qui lui disent, dis donc, et ceux-là, ils t'ont méprisé, ils t'ont mis de côté, maintenant tu les tues. Puisque tu as gagné la bataille, hein, ils t'ont pas fait confiance, vas-y, maintenant élimine. Il a dit, mais non, c'est un jour de victoire, c'est un jour de joie. Dieu nous a donné la victoire. Je ne vais quand même pas tuer des gens, des nôtres. Un jour où Dieu me donne la victoire. Non, mais... voilà, vous voyez, un bon raisonnement, enfin un gars qui tenait la route. Et retenez ça, parce qu'on va voir après, malheureusement, il va aller complètement aux antipodes. Il retourne à son travail agricole et il n'est pas du tout orgueilleux. Devant les cris du peuple, quand il y a les ammonites attaquent et menacent de leur arracher chacun un œil, très sympathique, hein, il se laisse envahir par l'Esprit de Dieu et il fait exactement ce qu'il a à faire. Il établit une alliance pour aller au secours de la région menacée. Il crée une unité dans le peuple. Il va se comporter en excellent chef d'armée, très sage, avec une excellente stratégie militaire. Il va diviser en trois bandes qui vont attaquer et prendre un petit peu en étau les ennemis. Et après la victoire, il va donner gloire à Dieu. Donc comme je disais tout à l'heure, refuser de tuer ses opposants parce que le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Il dit bien le Seigneur, il ne dit pas moi. Même s'il a eu une très bonne stratégie et il a été un bon chef militaire, il dit le Seigneur a donné la victoire en Israël. Bon, quand vous êtes allé sur le champ de bataille et que vous avez risqué votre peau, être capable de dire c'est le Seigneur qui a donné la victoire. C'est bien, c'est bien. Sa royauté va être confirmée à Gilgal devant le peuple rassemblé et Samuel l'avait démissionné de son rôle de juge, de leader, mais il va rester le prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Donc là, maintenant, on a roi et prophète. Il fait les sacrifices, il enseigne, il reste aux côtés du roi. C'est là qu'il va faire une sorte de bilan de sa vie, mais il reste actif. Vous allez voir qu'on... même encore avec David, on va encore retrouver notre Samuel, bien âgé, mais il va toujours être là. Et pour Saül et pour David, c'est un modèle extraordinaire de redevabilité. Son discours d'alliance rappelle toutes les réponses de Dieu aux prières et il place le peuple bien devant ses responsabilités. Quand vous avez crié, il a répondu. Quand vous vous êtes repenti, il a pardonné, etc. Vous avez préféré demander un roi, mais bon, voici votre roi. Selon les termes de l'Alliance, etc. Si vous continuez à craindre le Seigneur sera avec vous. Et là, je trouve la bonté et la bienveillance de Dieu. Vous avez fait les têtus, vous avez eu ce que vous voulez, mais moi, je fais tout ce que je peux pour que ça marche. Ça en dit long sur qui est Dieu. Et il y en a marre de ces schémas, hein, où Dieu, il est au coin du bois, il vous attend avec un bâton. Et dit, Jean-Samuel, t'as pas bien travaillé, attention. Non, 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 pas du tout. Il est prêt à nous faire réussir, il fait tout pour que ça marche. Il n'est pas là pour nous écraser. C'est nous qui nous créons des problèmes, là c'est autre chose. Je ne parle pas de Jean-Samuel. Le roi doit suivre le Seigneur, et là il insiste, Samuel. C'est pas parce qu'il est roi que ouhou, je fais ce que je veux. Le roi doit suivre le Seigneur, c'est pas un dieu comme Pharaon. Et c'est là la différence sur laquelle il va insister. Les rois des autres nations étaient plus ou moins divinisés. Il n'y a pas encore longtemps, au Japon, l'empereur était encore... Enfin, quand j'étais petite, hein, il me semble me souvenir qu'on le considérait comme un dieu. Donc c'est pas si loin que ça. Hein. Là, on est 3100 avant Jésus-Christ, 3100 par rapport à nous. Mais hein, dans les années 50, je ne suis pas si vieille que ça quand même. Bon. Le roi doit suivre le Seigneur. C'est pas un dieu. Samuel va rester très ferme là-dessus. Il va rester patient et compréhensif jusqu'au bout. Et puis on arrive à la royauté donc établie de Saül. Tout semble aller relativement bien. Vous avez vu toutes les qualités qu'il avait, hein ? J'ai fait la liste là pour résumer. Quand même, moi j'ai découvert quand j'ai fait ce travail, je dis, ouais, mais il était bien Saül quand même, hein ? Il a bien démarré. Alors, ce qui fait mal avec Saül, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va prendre la pente descendante. Et c'est en particulier au niveau de la guerre que ça va se passer. C'est souvent quand on est en face des ennemis, en face des difficultés, que nos mauvaises tendances ressortent. Marc Brisebois disait, pour savoir ce qu'il y a dans le tube de dentifrice, il faut appuyer dessus. Et c'est quand on subit des pressions qu'on ressort souvent ce qu'il y a dans notre cœur. Et on est quelquefois choqué. Oh non, je ne vais pas réagir comme ça. Ouais. Et Saül, voilà. Quand la pression s'accentue au niveau de la guerre, vous allez voir qu'il ne se comporte plus si bien. Il va choisir des très bons soldats, il va bien les répartir, il en met 1000 avec son fils Jonathan, il prend les 2000 autres. Mais Jonathan n'est pas du même bois que Saül. Ça peut être son fils, hein. C'est étonnant ce Jonathan. Ça reste vraiment un mystère. Jonathan, c'est vraiment un homme de Dieu. Et quand il voit que son père, il est là avec son armée sous son chêne, puis qu'il ne bouge pas, eh bien lui, tout seul, avec son porteur d'armes, il va attaquer un poste de Philistins. Évidemment, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Mais il savait ce qu'il faisait. Il en avait marre que depuis 200 ans, les Philistins n'arrêtaient pas de les embêter. En plus, ils étaient très malins, ils attendaient les récoltes pour venir tout voler. Ils attaquaient sans arrêt, c'était une guérilla permanente. Ils avaient des cités-états, hein, 5 villes, et ils s'enrichissaient comme ça. Ils tiraient beaucoup d'avantages militaires et commerciaux du monopole de la fabrication du fer, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et Saül va être confronté toute sa vie aux Philistins, et on va voir aussi David. C'est pour ça que je reviens un petit peu là-dessus. C'est pas terminé quand David arrive. Ô combien ! Et dans les histoires de l'Ancien Testament, les Philistins représentent l'ennemi sous toutes ses formes. Et vous savez qu'on a des ennemis. Alors, il ne faut pas penser aux ennemis en chair et en os, mais plutôt, il y a l'ennemi, Satan, qui passe son temps. Vous savez, il a un projet pour nous, Satan. Il a un projet, il ne faut jamais l'oublier. C'est nous détruire. Nous détruire, par tous les moyens possibles. Et puis, l'autre ennemi, malheureusement, c'est nous-mêmes. Notre chair, notre nature. Alors, j'aime pas le mot chair, parce qu'il était hyper mal utilisé. Notre nature humaine, notre nature, là. Ah, ça, c'est un sacré ennemi par moment, hein. Suivant notre hérédité, suivant notre caractère, suivant plein de choses, des circonstances de nos vies qui ont sculpté une certaine nature. Cet ennemi-là est toujours là, et comme les Philistins. Il vient ravager dans les bons moments, où tout allait bien. Oh, zut ! Ah, les Philistins savaient faire, et notre ennemi sait. Et puis il y a le monde, ses principes. Et là, je crois qu'en tant que chrétien, il suffit d'ouvrir les yeux, voir les lois qui sortent, de voir un petit peu où va le monde en ce moment pour comprendre que, oui, le monde devient un ennemi vraiment de Dieu. Les Philistins contrôlaient Israël dans bien des endroits. Et Jonathan, il est jeune, il est vaillant. Il n'accepte pas le statu quo. On ne va pas rester comme ça en face des ennemis, à rassembler notre armée et puis pas bouger. Donc il attaque. C'était une attaque osée. Mais les Philistins ont compris, oulala, avec ce roi et surtout son fils, il va falloir y mettre le paquet. Et il y a une curieuse phrase, cette période, c'est « Israël s'est rendu odieux aux Philistins ». Odieux. Oui, ils sentaient mauvais pour les Philistins, parce qu'ils sentaient que la coexistence pacifique, c'était fini. Ils allaient refuser de baisser la tête. Ils avaient déjà eu des victoires, les Israélites, et ils vont continuer. Fini les compromis. Jonathan était ferme. Il n'allait pas laisser un ennemi cruel, envahisseur, voleur, prendre le dessus. Vous savez qu'après, Jonathan va être un ami de David. On comprend pourquoi. Hein. Il en veut, Jonathan. Il n'est pas prêt à faire des compromis. Vérité, honnêteté, foi en Dieu. Jonathan, c'est formidable, ce gars. Saül, lui, avait renvoyé ses hommes chez lui. Oh, il planifiait rien. Mais Jonathan, lui, il avait une foi, une vision. Et du coup, il va falloir rappeler le peuple qu'il n'avait pas du tout envie de se battre. Ah, l'attitude du roi, ça compte. Hein. Le roi n'avait plus trop envie, le peuple non plus. Et en face, les Philistins vont se rassembler à Michmas. Infériorité militaire dramatique du côté d'Israël. Peu d'armes et des armes en bronze. Les Philistins avaient veillé à ça, comme on le sait. Ils ne voulaient pas qu'ils se défendent. Ça nous parle aussi, hein, quand on n'a plus d'armes pour se battre. C'est quoi les armes du chrétien ? C'est pas notre langue. Non, non, non. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et écouter Dieu, je pense, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on fait ces histoires sur la Bible. Regardez comment les hommes de Dieu dans l'Antiquité ont appris à écouter Dieu. Ils ont appris. Et Jonathan, apparemment, il avait très bien compris, hein, ce que Dieu voulait, virer l'ennemi. Et il y va. Par contre, l'ennemi est plus fort. Il est rassemblé, ça fait peur. Mais il se confie en Dieu. Il est prêt pour la bataille. Les Israélites plutôt avaient envie de se cacher. Et là, on va commencer à voir Saül qui prend vraiment la pente descendante. Il attend que Samuel, comme prévu, viennent faire le sacrifice. Il voit les gens qui commencent à se disperser, ils ne sont pas motivés pour se battre. Et il se dit, allez, je ne l'attends plus, je fais le sacrifice. Alors nous, évidemment, au XXIe siècle, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais à l'époque, c'était inconcevable. La puissance, l'autorité du prêtre, du représentant de Dieu, numéro un. Et les gens le savaient. Et ils le savaient, Saül. Mais bon, il s'est dit, maintenant je prends les choses en main. Je suis roi après tout. Hein. Après tout, j'ai reçu l'onction moi aussi. Et il a dû penser à tout ce qu'il avait réalisé, les victoires, etc. Allez, après tout, hein, j'ai l'onction de Dieu, il n'y a pas de raison que Samuel seul fasse les sacrifices. Pourtant, c'était comme ça, c'était clair. Du coup, il y va. Évidemment, Samuel arrive dans les minutes qui suivent. C'est toujours quand vous décidez de partir que les gens arrivent d'ailleurs, heureusement. Et là, Samuel est vraiment déçu. C'est la première étape. Première étape de la chute. Et encore, ce serait peut-être pas terrible si c'était pas justifié. Vous allez voir David, on va voir la différence avec David. Le problème, c'est que Saül, il va se justifier. Il connaissait l'interdiction de Dieu, il était roi, il n'était pas sacrificateur, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait pas le souci, il n'avait plus le souci d'obéir à ses commandements, à la loi de Moïse. C'était pourtant très très clair. Saül fait les sacrifices et la première chose que Samuel lui dit en arrivant, là aussi j'admire la bonté de Dieu. Je sais pas, mais c'était inouï ce qu'il avait fait. Comme Adam et Ève. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Adam et Ève ? Où es-tu Adam ? Après ce qu'ils avaient fait, moi je les aurais réduits en poussière. Et là, il arrive et dit, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait Saül ? Il a un espoir au fond. Et quand Dieu vient nous voir, qu'on a fait une grosse bêtise ou une petite, peu importe, mais qui nous dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fabriqué là ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi la bonne réponse ? Mais j'étais obligée, mais c'est la faute des autres, c'est le peuple, c'est mon voisin, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes copains, c'est tous les autres. Moi, je suis blanc comme neige. Ce qu'il attend, c'est la vérité. J'ai désobéi. Et souvent, quand Dieu vient nous voir pour nous dire « Mais qu'est-ce que tu as fabriqué ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Mais pourquoi tu as fait ça ?» Notre première réaction, c'est de se dire « C'est la faute à qui, là ?» Au lieu de dire « J'ai désobéi. » Et on va voir la différence déjà avec son fils Jonathan. Dans les mêmes circonstances, « J'ai fait ça, j'ai. » Saül, les autres, le peuple, l'impatience, la peur, enfin, tout y passe. Et d'ailleurs, si on fait un petit résumé de ce qu'il dit, « J'ai vu, c'est la faute au peuple, à toi, bah oui, toi, tu es en retard, au peuple, à toi, aux Philistins. J'ai vu que le peuple se dispersait, que tu n'arrivais pas, etc. Je me suis dit, ah, c'est grave, hein, quand on commence à se dire « je me suis dit », la Bible dit « mais moi, je me suis dit ». Ça veut dire qu'on se place au-dessus de la parole de Dieu. Oh, d'accord, la Bible dit de rendre un bon témoignage et tout, d'être un ambassadeur de Christ. Mais moi, j'ai dit que ce collègue, j'allais le saquer parce qu'il m'a fait ça. Oh, d'accord, la Bible dit d'aimer ses ennemis, de... Voilà. Mais moi, j'ai dit celui-là, je lui pardonnerai jamais. Mais moi, je dis. Et chaque fois qu'on dit « mais moi, je dis », on se met complètement à l'opposé de la repentance. On se met Dieu à dos. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé à Dieu avant ? Pourquoi est-ce qu'il se justifie ? Mais quelle image il a de Dieu ? Parce que vous savez comment il termine en disant « Je ne voulais pas quand même aller à la bataille sans avoir fait le sacrifice. » Le rite. Il faut aller à l'église, sinon tu ne seras pas béni. Le rite. Bien sûr qu'il faut aller à l'église, mais pas pour ces raisons-là. Ce n'est pas pour acheter la bénédiction de Dieu. C'est pour recevoir sa parole, pour entendre, pour être encouragé, pour être fortifié. Mais lui, le rite va tout faire. On fait le sacrifice et on aura la victoire. Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que va lui répondre Samuel. Et il a le culot de dire « Je me suis fait violence, j'ai pris sur moi, j'ai fait un effort surhumain pour désobéir. » Ah là 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 là. Samuel ne va pas discuter, il constate « Tu as agi en insensé. » Tu es complètement idiot en d'autres termes. Tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur t'avait donné et tu ne fonderas pas de dynastie royale. Donc on sait que Jonathan ne sera pas roi à cause de son père. Et pourtant Jonathan était un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, à cause de son père, parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu. Donc la première punition, la première étape de la chute de Saül, tu ne seras pas roi. Ça veut dire que pendant ce temps-là, alors que les choses commençaient à empirer sérieusement en Israël, et c'est avec ça que je vais terminer, pendant que les choses empiraient, la situation devenait de plus en plus grave, la situation de Saül par rapport à Dieu, Dieu préparait un roi. Il s'est servi de Jonathan en attendant. Jonathan, vous allez voir, a permis qu'il y ait une victoire retentissante, mais il préparait déjà un roi. Et je terminerai avec ça. Si vous êtes dans une situation difficile, peut-être vous êtes mis dans une situation difficile, Dieu seul le sait, c'est pas grave. Le chemin est toujours le même, la repentance, reconnaître ses fautes et surtout ne pas accuser tout le monde autour de vous, même s'ils ont eu un impact. On vit en société, hein. Les autres ont forcément un impact. Mais, Seigneur, j'ai désobéi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je n'aurais pas dû, Seigneur, j'ai fait, je confesse mes péchés. Et pendant ce temps-là, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il prépare la solution. Et pour le peuple, il était déjà en train de préparer, je pense qu'à l'époque, il devait être bébé, le petit Samuel, le petit David, il devait être bébé à cette époque, il ne devait pas être bien vieux, il était en train de le préparer. On n'a pas le décompte des années exactes. Hein, mais... Donc Dieu avait déjà prévu la solution. Et pour vous aussi, Dieu a prévu la solution. Alors, continuons à prier, continuons à essayer d'écouter Dieu. Et on va voir qu'avec David, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il ne sera pas parfait, mais il écoutera Dieu. C'est pour ça que Dieu l'appellera homme selon le cœur de Dieu. Et on a tous envie d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on recommande vivement le TQP, parce que c'est ces fameux 4 R. Hein. Dieu me révèle ce qui ne va pas. Je me repens. Je renonce. Là, si Saül avait renoncé, il aurait pu. Hein. Mais peut-être qu'il n'aurait pas été, il n'aurait pas eu cette malédiction pour son fils. S'il avait dit, mais je renonce, Samuel, maintenant c'est fini, je ne ferai plus jamais ça. Je renonce à ce genre d'action. Même si l'ennemi est en face, Non, je ne me laisserai plus aller. Renoncer, et après Dieu peut restaurer. Il aurait été restauré. Il était encore restaurable à cette époque-là. Alors, faisons pas comme lui, hein, mais restons restaurables et que le Seigneur nous bénisse. Il prépare un David. Ce sera pour la prochaine fois.